Les capsules sonores que vous allez écouter ont été imaginées par des jeunes de la mission locale de Colomiers. Une action de médiation organisée par le conseil départemental de la Haute-Garonne et la compagnie Les Philosophes Barbares dans le cadre du festival 31 notes d'été. Cette courte histoire a été imaginée à partir d'une image trouvée dans le programme de l'Opéra de Toulouse.
Connais-tu cette petite île du Pacifique nommée Motunui ? Suis-moi, je t'y emmène. Cette nuit, en prenant le temps de bien regarder ces plages et ces forêts de palmiers, tu peux remarquer une étrange construction, tout en bambou encore nu, plantée au bord de l'eau. La légende raconte qu'à une époque lointaine, bien avant Jésus-Christ, l'Atlantide, une île mystérieuse et légendaire, fut engloutie. On dit aussi qu'elle fut habitée jadis par des êtres plus évolués que le commun des mortels. Un raz de marée aurait tout emporté, tout sauf deux personnes.
Tevahine et Mahana.
Ce soir, ces deux hommes sont debout, l'un à côté de l'autre, observant paisiblement le début de leur futur lieu de vie, Motunui.
Est-ce que cette nuit étoilée ne te rappelle pas la dernière que nous avons passée sur l'Atlantide, notre île natale, avant la dernière vague ? On pourrait presque dire que les étoiles nous ont suivis jusqu'ici, tout comme nous accompagnent les esprits de notre peuple perdu.
C'est quand même paisible, ce bruit de ressac, le ciel qui se reflète dans l'eau et le bruissement des palmiers. Notre construction de fortune commence à prendre forme. Bientôt, nous pourrons construire des murs. Mais aperçois-tu ces silhouettes évanescentes ? Je jurerais qu'elle n'était pas là avant que je ne cligne des yeux. Ces tenues, elles me rappellent nos plus anciennes légendes. Soudainement, un hôtel d'une couleur rougeâtre apparut. Il rappelait l'architecture du peuple perdu à jamais, mais dont les souvenirs étaient encore vivaces dans la mémoire des deux hommes. Au centre de cette structure, nous pouvions distinguer la reine Avae et le roi Fetia, suivis de leur conseiller, Merei. Entre ombre et lumière, les silhouettes de leurs ancêtres apparues devant eux leur tirèrent une larme, tout en leur donnant un regain d'espoir pour le futur.
Peut-être sommes-nous sur une terre qui nous est destinée ? Après tout, nous sommes les derniers survivants de notre civilisation engloutie.
L'arbre poussera haut, et les racines demeureront éternellement, englouties mais toujours vivaces, comme leurs souvenirs.
Tout comme le montrent ces hommes apatrides, d'une brindille vient une racine, puis un sitis.
Une histoire inventée et interprétée par
Magali
et Wesley.
Cette courte histoire a été imaginée à partir du tableau « L'enfant à la poupée » par le douanier Rousseau.
Un samedi après-midi, une prairie, Marie-Cécile, son père, une poupée et...
Une coupe au bol.
Coupe au quoi ?
Coupe au bol.
Au quoi ?
Au bol.
Marie-Cécile, avec sa poupée, se fait prendre en photo, un samedi après-midi, par son père, dans une prairie.
Papa, je ne veux pas prendre la photo avec Abdel. Ça fait bébé. Et puis, je me trouve pas très belle avec une coupe au bol.
Coupe au quoi ?
Coupe au bol.
Au quoi ?
Au bol. S'il te plaît, c'est pour ta grand-mère. Tu resteras toujours mon bébé et je trouve que ta...
Coupe au quoi ?
Coupe au bol.
Au quoi ?
Au bol, magnifique. Non, le coiffeur m'a fait une dinguerie sur la tête. Il a pris mon crâne pour un terrain de rugby. Il m'a fait une coupe.
Ta peur, ta herbe, tu pleures.
Dans tous les cas, je m'en fous. Tu n'as pas le choix. C'est moi l'adulte et c'est toi l'enfant. Alors, la photo a quand même été prise par Abdel dans la prairie un samedi après-midi. La grand-mère de Marie-Cécile montrèrent la photo à toutes ses copines et petit à petit, toutes les grand-mères connurent la petite à la coupe bol.
À la coupe quoi ?
Au bol, au bol, au bol, au bol, au bol.
Une histoire inventée et interprétée par
Inès,
Michael et Sofiane.
Cette histoire a été imaginée à partir du tableau « Bouboule » par Toulouse-Lautrec.
C'est un jour triste et pluvieux, pourtant dans les rues vides de cette ville grise, deux amoureux se promènent. Rocky et Katharina marchent côte à côte, d'un même pas sur le trottoir mouillé, noyés dans leurs regards. Au pied d'un arbre nu, Rocky soudain s'arrête.
Katharina, je dois te parler.
Oui, dis-moi Rocky.
Attendrie par le regard humide et le buste fier de son aimé, Katharina voulait que cet instant dure toujours.
Au loin des bruits, de pas qui se rapproche, une silhouette, un homme, grand mais méchant, un sourire au coin de lèvres, et sort discrètement quelque chose dans son sac.
Mon amour, je dois te laisser, mes amis m'attendent.
Tu vas me manquer, mais je reviens très vite, je t'aime.
Je comprends, et moi aussi je t'aime. Fais attention à toi, je t'attendrai à côté de notre maison.
L'homme profite de cet instant pour appuyer sur le déclencheur de son appareil photo. Et Rocky se précipita de l'autre côté de la rue.
Dans quelques jours, l'homme regardera la photo sans se douter que c'était le dernier instant de Rocky, vivant. Puis il ira dans un refuge à la recherche d'un chien aussi beau, aussi intelligent, vif et courageux que Rocky.
Une histoire inventée et interprétée par
Georges,
Diogo
et Laïs.
Cette courte histoire a été imaginée à partir du tableau La Tour Eiffel de Marc Chagall.
Une nuit fraîche, un ciel clair, quelques nuages. El viento, como de costumbre, mueve aquellos árboles flojos y el humo de los cigarros. Fumé qui sort de la bouche d'une grande femme qui vole toujours tout le regard des Parisiens. La Torre Eiffel. Ella se encuentra dando un paseo con su amigo de infancia, el caballo, que acostumbra a ponerse zapatos y medias de malla.
Attends, un cheval qui porte des chaussures et des chaussettes?
Sí, y por ninguna razón carga en su cola un pollo.
Et qui porte un poulet sur son dos?
Sí, c'est bizarre, je sais.
Pourquoi?
Porque...
Peut-être que ça lui porte chance.
Ah, sí, j'avais pas pensé. Y en su regazo está posada su querida amiga, que gracias a su altura ve a lo lejos cómo empieza a acercarse un humo que no es de los cigarros.
Y sur ses genoux est perché sa chère amie qui, grâce à sa taille, voit au loin s'approcher la fumée.
Que no es de los cigarros.
Et qui ne vient pas des cigares.
Mira. Todo cae. Tout tombe. Estamos algo lejos y podemos seguir paseando hasta que dejemos este lugar.
Nous pouvons quitter ce lieu. Marchons.
Vamos.
Quoi? Comme ça? Comme si de rien n'était? Tout tombe et tu es tranquille?
Sí. Es inevitable.
La tour Eiffel, sur le dos d'un cheval, en chaussettes, avec un poulet porte-bonheur, la dernière nuit du monde, c'est inévitable?
Sí. El final. Es inevitable.
La fumée n'était plus si loin, et en un clignement d'œil, ils disparaissent. Alors, la tour, le cheval et le poulet, dans la nuit fraîche, faisaient partie du rien.
Et hicieron parte de la nada.
Ou du tout.
O del todo.
Tanto correr, persiguiendo lo que ha de llegar.
Une histoire inventée et interprétée par
Maria
et Sam.
Cuesta creer cuando el miedo no te deja ver.
Cette histoire a été imaginée à partir du tableau « La nuit étoilée » d'Edvard Munch.
La nuit n'avait jamais été aussi longue. Les étoiles scintillaient, protégeant les âmes égarées sur la rivière sans fin. Sur cette rivière nacrée, une barque, menée par un passeur silencieux, et deux ombres inquiètes. La plus grande s'approcha de la plus petite, comme pour lui dire
« J'ai peur. J'ai peur, mais je ne peux te le dire. Que se passe-t-il, mon enfant ? Je vois tant de questions briller dans tes yeux. J'aimerais te rassurer, savoir quoi te dire, mais je suis perdue. Je suis l'adulte ici, et tu n'es qu'un enfant. Mais qu'est-ce qu'un enfant et un adulte dans un monde où plus rien n'existe ?
T'ai-je connu ? Avant ?
Ai-je vu ton sourire ?
Ai-je pu te prendre dans mes bras, comme j'aimerais le faire maintenant, pour te rassurer ?
Pour te protéger ?
Mais y a-t-il un avant ?
Nous voguons vers cette ville lointaine et inconnue aux couleurs si froides. J'ai peur de ne jamais l'atteindre. Et si peur de l'atteindre un jour. Il n'y a que toi et moi, et je suis incapable de te consoler.
Ces incertitudes leur donnent l'impression d'être à la dérive, depuis l'éternité, avec comme seule chose familière ces étoiles qui les protègent. L'impression de pouvoir ressentir l'eau de cette rivière glaciale et le regard plus froid encore de l'homme qui dirige la barque. Le silence de ce passeur les rend plus seuls que s'il était absent.
Que se passe-t-il, mon enfant ? Je l'ignore. Les étoiles brillent sur nos ombres et il me semble parfois les entendre chanter.
Quittez la ville des yeux et trouvez la chaleur de votre âme.
Deux bougies dorées brillent dans les arbres, comme un chemin allumé pour eux. Pourraient-ils dévier la barque de sa destination inéluctable et y trouver le bonheur ?
Tellement de questions sans réponse dans cet entre-deux intemporel, mon enfant. Alors je te dis...
Tiens ma main, tout ira bien. Une ombre peut-elle sourire ? C'était incertain. Nonobstant, elle semblait s'illuminer à l'écho de ses mots.
Tout ira bien, je le sais. Je ne suis pas seule. Tout ira bien tant que tu es là pour moi. Cet homme silencieux ne me fait plus peur car tu es là. Je sens la chaleur de ta main dans la mienne. Et je sais que même en étant qu'une ombre, ici, je suis en vie, car je ne suis pas seule. Ces bougies ont l'air presque familières. Et je sens que ma famille m'attend de l'autre côté.
Le temps reprit son cours. La barque heurta la terre. Le passeur disparut et, main dans la main, les deux âmes se dirigèrent vers les douces lumières des bougies. Au loin, le soleil se lève.
Une histoire inventée et interprétée par
Sam
et Inès,
avec la participation de Maria, Magali, Michael et Wesley.
Cette histoire a été imaginée à partir du tableau « La nymphe » du douanier Rousseau.
Le chant de la nymphe. Enfin arrivé sur l'île, l'air était lourd. Mais Archimède était bien heureux d'être sur la terre ferme.
Oh flûte ! Encore la sensation d'être sur ce foutu bateau.
Néanmoins, le sentiment d'insécurité ne le quitta pas pour autant. Les colons installèrent leur camp et soudain... Une flûte à la mélodie crispante. Gêné, Archimède se frotta les oreilles frénétiquement afin de chasser l'acouphène persistant. Puis, il regarda précipitamment autour de lui. Le reste de l'équipage ne semblait pas s'en soucier.
Mais pourquoi, diable, suis-je le seul à réagir ? Suis-je fou ?
En voyant que ses coéquipiers ne semblaient pas s'en préoccuper, Archimède retourna à ses occupations.
La fatigue doit me jouer des tours.
Marmonna Archimède à lui-même avant d'aller rejoindre son tipi.
La nuit semble être bien noire sur cette île. Vaut mieux que je rentre.
Le soleil se coucha et Archimède tomba dans les bras de Morphée, quand soudain...
Ah !
Il se leva en furie, des gouttes de sueur perlaient sur son front, ses yeux étaient écarquillés de terreur, sa respiration était atelante, son cœur battait à la chamade. Archimède écrasa son visage contre ses mains afin de reprendre ses esprits.
Fichtre !
Le soleil se leva, enfin. Archimède eut beaucoup de mal à ouvrir les yeux, encore gonflés de la veille. La journée était belle, des flashs incessants martelaient son esprit. La mer noire déchaînée, la foudre illuminait le ciel, la forêt qui se rapprochait à toute allure avant de l'engloutir pour se retrouver seule sur la plage, le ciel d'un noir ténébreux, plus aucune tente, plus aucune âme, juste ce vide sinistre, un vent glacial. Et puis... la mélodie, des serpents rampant à ses pieds par centaines. Archimède se retrouva momifié par les serpents, hurlant jusqu'à en perdre la voix. Rien qu'à ces simples images, Archimède frissonna et alla trouver une occupation afin de faire disparaître la chair de poule incessante sur sa nuque. À l'heure du déjeuner, Archimède prit son casse-croûte et s'installa sur une petite crique. Un compagnon le rejoignit.
Hé, l'ami, comment va ?
À vrai dire, la nuit a été mauvaise, camarade. N'as-tu pas entendu un bruit de flûte ?
Kunani, j'ai dormi comme un bébé !
Rétorqua ce dernier en s'étirant de tout son long. Archimède ne fit que cogiter de plus belle, et la mélodie se faisait de plus en plus fréquente, et des événements également. Les cauchemars des colons, les épuisements de vivre anormal. De ce fait, les esprits commençaient à s'échauffer.
Nous sommes attaqués, c'est une évidence, compagnon. Hier, les fruits et les vivres en putréfaction, et aujourd'hui, notre eau douce complètement dissoute. Quelle diablerie est-ce ?
Ni une ni deux, Archimède profita de cette occasion.
Du calme, camarade, du calme. Il est vrai que tout cela porte à confusion. Je m'en vais voir qui se joue de nous.
Tu es bien brave, Archimède. Combien d'entre nous as-tu besoin ?
Non. Non, merci, ami. J'ai bonne conviction à me dire que ça doit être un de ces oiseaux des vastes forêts.
Archimède empoigna sa sacoche et ajusta son chapeau avant de faire signe de la tête à ses compagnons. Il marcha des kilomètres dans la flore. Ses chevilles commençaient à lui faire sérieusement mal à force de pivoter selon les pierres, les branches, les obstacles. Ses bras également étaient endoloris. Chasser les mouches et les moustiques n'est pas de tout repos. Sans parler des orties, des ronces qui embrassaient son corps à travers le textile. Il ne cessait de se répéter en son fort intérieur.
Je suis Archimède. Je n'abandonnerai pas. Je suis Archimède, je n'abandonnerai pas. Je suis Archimède, je n'abandonnerai pas.
Archimède était au plus mal quand soudain les poils de sa nuque s'hérissèrent.
Seigneur, mon cœur s'en va rompre. De l'air, où est donc l'air ? Je suis si épuisé.
Archimède céda et perdut connaissance. Le bruit d'un courant d'eau et le chant d'oiseau l'extirpa de son sommeil profond. Il était à présent sur une berge, des algues gluantes recouvraient ses blessures. De l'eau lui avait été mise à disposition, ainsi que quelques fruits. Il pensa d'abord à un mirage, mais quand il but l'eau fraîche et la sentit couler dans sa gorge, ceci lui procura une sensation de bien-être à lui en faire fermer les yeux. Ses yeux s'écarquillèrent et son esprit manqua de le quitter à nouveau. Elle était là. Devant lui, une femme d'une beauté effrayante, nue, plus noire que le charbon, ses yeux de braise, ses cheveux qui semblaient se mouvoir seuls, des écailles d'or à peine perceptibles, la recouvraient de tout son long. Il n'osait cligner des yeux. Le spectacle était si unique, si mystique. La nymphe porta un objet à sa bouche, faisant briller ses écailles, et esquissa un sourire.
Une histoire inventée par Laïs, Mélissa et Shaïma, interprétée par Laïs, Georges, Wesley et Diogo.